Bonsoir, élection 2011 en RDC. 4 jours après le scrutin et 4 jours avant la publication par la CENI des résultats provisoires de l'élection présidentielle, où en sommes-nous avec la compilation alors que l'on continue les opérations de vote et de dépouillement dans certaines parties du pays. Mais notez également que ce soir, la CENI a commencé à publier les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Les détails et les analyses sont tout à l'heure. Nos invités dans cette émission sont Maître Ronsard Malondas, directeur chargé de la coordination et de suivi des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Professeur Komi Toulabor, directeur de recherche au centre de recherche dénommé Les Affectants le Monde à Bordeaux en France. Il travaille sur les problèmes électoraux et prépare un ouvrage sur les fraudes électorales en Afrique. Professeur Komi, bonsoir.
Et bonsoir Alain.
Professeur Edith Yambokolo, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris en France. Il a publié un livre collectif intitulé « Élections démocratiques au Congo, enjeux et perspectives ». Professeur Edith Yambokolo, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans votre émission.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081-890-66-68 ou nous écrire par SMS au 081-051-57-58 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Voilà, vous le savez, la grosse actualité de cet après-midi, c'est que la CENI a commencé à publier les premiers résultats partiels de l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. Jeff Ngoy, vous venez fraîchement de la CENI, quels sont les détails?
Pour la province du Bangundu, les résultats compilés représentent 17,49%. D'autres continuent à tomber en ce moment, selon le président de la CENI. Pour cette province, Kabila Kabange obtient 211 517 voix. Kamere Luakanyingini obtient 5462. Et Tshisekedi Wamulumba obtient 607 611 voix exprimées. Pour la province du Bas-Congo, sur 1242 bureaux compilés, 44,71% du taux de voix ont été exprimés. Kabila Kabange obtient 77 596 voix. Kamere obtient 6540. Tshisekedi, 283 750. Pour la province de l'Équateur, sur 747 bureaux de vote compilés, le taux de compilation est de 10,14%. Ici, Bombole Intole obtient 1602 voix. Kabila Kabange, 18858. Vital Kamere, 3668. Pengo Wadondo, 61890. Mobutu Nzanga, 37576. Etienne Tshisekedi, 44974. Pour la province du Maniema, bureau compilé 278, taux de compilation 16,66%. Ici, Kabila obtient 72 023 voix, Kamere 9610, Tshisekedi 2302. Pour la province orientale, et d'abord pour la province de Maniema, ça fait un total de 86 358. Et pour la province orientale, bureau compilé 1340, taux de compilation 17,90%. Ici, Joseph Kabila obtient 252 952 voix, Vital Kamere 24 267, Etienne Tshisekedi 52 221. Au total, ça fait 381 944 taux. Pour le Nord Kivu, bureau compilé 354, taux de compilation 6,63%. Kabila obtient 19 636, Vital Kamere 19 472, Mboussa Nyamwisi 43 101, Étienne Tshisekedi, 27 747. Total, 115 213. Sud-Kivu, bureau compilé, 900 et 391. Taux de compilation, 10,55%. Kabila obtient 80 329. Vital Kamerhe, 52 535 voix. Boussagnani, 690 voix. Étienne Tshisekedi, 4 305 voix. Total, 141 569. Pour la province du Katanga, nombre de bureaux compilés, 2 279. Taux de compilation, 27%. Ici, Joseph Kabila obtient 724 515 voix. Vital Kamerhe, 7864. Étienne Tshisekedi, 42 764. Taux, au total, ça donne 795 485. Pour la ville-province de Kinshasa, bureau de vote compilé, 2. Taux de compilation, 0,02%. Ici, Kabila obtient 207 voix. Vital Kamerhe, 4. Étienne Tshisekedi, 104 voix. Total, 327 voix exprimées. Pour la province du Kasaï occidental, bureau compilé 725, taux de compilation 15,56%. Ici, Joseph Kabila obtient 18 379, Vital Kamerhe 888, Étienne Tshisekedi 179 711, au total 205 458. Au Kasaï oriental, bureau compilé 1171, taux de compilation 22,83%. Joseph Kabila obtient 47 087, Vital Kamerhe 1221, Étienne Tshisekedi 251 585. Au total, 3 359 voix exprimées.
Merci, Gershengoy. Maître Ronsard Malonda, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur chargé de la coordination et de suivi des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Il faut déjà préciser là qu'il s'agit des premiers résultats partiels.
Évidemment, il s'agit des premiers résultats partiels, les tout premiers, qui ont un grand sens parce que les gens attendaient, mais ce ne sont pas les résultats de la fin. Il faudra attendre encore la progression.
Et il faut insister sur cet aspect-là pour qu'il n'y ait pas de confusion surtout.
Évidemment, c'est un risque pour la Commission électorale indépendante de pouvoir faire cette proclamation partielle, progressive. Il aurait fallu qu'on attende la fin et qu'on publie une fois pour toutes pour éviter les confusions. Mais puisqu'il faut informer, il faut la transparence, la Commission électorale nationale indépendante a pensé que chaque fois que, province par province, le centre de locaux de compilation des résultats ont compilé quelque chose, il faut informer le public. C'est ça le sens de cette publication qui a été faite.
Alors, à titre pédagogique, Maître Malonda, il y a certainement beaucoup de gens qui se posent la question, comment la CENI a-t-elle procédé pour obtenir ses premiers résultats partiels?
Commençons par un rappel de procédure. Tout le monde sait que le vote, comme le dépouillement, sont effectués au niveau du bureau de vote et de dépouillement. Après ça, il y a eu un premier affichage qui est aussi une publication locale, un affichage au niveau de chaque bureau de vote et de dépouillement. Certains témoins qui étaient présents ont reçu des copies de procès-verbaux et fiches des résultats à ce niveau-là déjà. Après le bureau de vote et de dépouillement, les résultats sont acheminés. Au niveau des centres locaux de compilation des résultats. Qu'est-ce qu'il faut entendre par centre local de compilation des résultats? C'est le lieu, l'endroit prévu au sein d'une circonscription électorale déterminée ou au sein d'un territoire, d'une ville bien déterminée pour rassembler, mettre ensemble les résultats épars venant des différents bureaux de vote. Et c'est ce travail qui est en train de se faire maintenant. Il se fait progressivement au fur et à mesure que le procès-verbaux venant des différents bureaux de vote arrive au centre local de compilation des résultats. C'est ce qui justifie le taux de compilation qui est donné. Vous avez remarqué que dans chaque province, La CENI a commencé par donner le nombre du bureau de vote compilé et le taux de compilation. Ce qu'on peut dire, c'est que ça évolue. Il y a un problème logistique, il y a des bureaux de vote qui sont situés à de grandes distances qui demandent du temps pour arriver. Mais quand ça arrive, on n'attend pas que les autres arrivent totalement pour commencer la compilation. Au fur et à mesure que le bureau de les résultats, le prix, voilà, le prix du bureau de vote arrive au CLCR, pour entendre parler le Centre local de compilation des résultats, ce centre, qui a un personnel formé, procède à la compilation, procède à la centralisation des résultats qui viennent de différents bureaux de vote.
Alors, Maître Ronsard Malonda, ce premier résultat partiel que la CENI a commencé à publier porte sur quel pourcentage par rapport à l'ensemble des résultats?
Évidemment, vous avez remarqué que la Commission électorale nationale indépendante a évité de faire une sommation. C'est par province, c'est pour rester conforme à la loi. La loi dit que les résultats qui viennent de bureaux de vote et de dépouillement sont compilés au niveau de CLCR et sont consolidés par province et transmis pour publication au niveau du bureau de la CENI. Nous épargnons, nous évitons cet exercice de faire une sommation nationale. Mais ce qui est essentiel, c'est que l'information passe. Que les gens sachent comment ça évolue, que les gens comparent déjà avec le prix, le PV qu'ils ont, qu'ils détiennent, puisqu'ils ont envoyé des témoins dans chaque bureau de vote, et qu'ils suivent l'évolution de cette compilation. C'est un exercice de transparence, c'est un exercice d'information, c'est un exercice de clarté, et même aussi pédagogique.
Alors, avant de donner la parole à nos deux analystes permanents, le professeur Elikia Mbokolo et le professeur Komi Toulabo, avez-vous une idée du taux de participation dans les différents bureaux de vote où on a recueilli ces premiers résultats partiels?
À ce jour, il est difficile de vous donner un taux de participation, même indicatif.
Et pourquoi?
J'insiste sur le fait que les résultats qui sont compilés sont des résultats partiels. Et ces résultats viennent du bureau de vote éparse jusqu'ici. C'est à l'issue plutôt, d'une clôture de compilation à l'échelle d'un seul cercle tout entier qu'on peut dégager un taux de participation. À partir du moment où un seul cercle tout entier, c'est-à-dire un centre local de compilation des résultats tout entier, n'est pas encore arrivé à la fin, il est difficile que vous dégagez ce taux de participation. C'est pour dire aussi que les choses sont tellement décentralisées, parce que dans la tête des gens, ils pensent que c'est peut-être au niveau national qu'on fait tout. C'est le terrain. Même nous, au niveau national, c'est le terrain qui nous informe. Et tant que le terrain n'a pas encore fini, nous ne pouvons pas déjà vous dire quelque chose. Nous ne saurons pas.
Merci, Maître Ronsard Malonda. Professeur Elikia Mbokolo, en 2006, vous avez également analysé le processus électoral, les élections. À ce niveau, professeur, nous venons d'avoir déjà les premiers résultats partiels publiés par la CENI. Quelles sont les analyses que l'on peut déjà faire à ce niveau?
Alors, je voudrais d'abord dire très brièvement que la voie de la sagesse a triomphé et c'est très bien que la CENI commence à publier ses résultats partiels et les publie par province, ça évite des sommations, etc. Là, ce qu'on voit, c'est que, là aussi, je suis d'accord avec Maître Malonda, qu'il ne s'agit que d'indications, il n'y a même pas de tendance. Mais ce qu'on voit quand même déjà, c'est qu'il y a un certain nombre de bastions, je n'irai pas de siècles, qui semblent s'orienter vers telle ou telle personnalité. On voit, par exemple, puisque cette région avait été peu représentée en 2006, que les deux Kassai, dans ce que nous avons, encore une fois, il ne s'agit que de 15% pour le Kassai occidental et 22% pour le Kassai oriental. Les deux Kassai semblent se prononcer très massivement en faveur du candidat Étienne Tshisekedi. Et à contrario, lorsqu'on regarde la partie orientale du pays, que ce soit le Maniema, le Katanga ou les deux Kivu, on voit que là aussi l'équation régionale, si on peut dire, joue très clairement, dans la mesure où le candidat Joseph Kabila Kabange émerge très très
très, très nettement pour le moment à partir de ces données partielles. Et eux aussi, Vital Kamerhe, notamment dans les deux Kivu, fait un score provisoire plus qu'honorable. Et de la même manière, enfin, si l'on regarde, Kinshasa, on ne peut pas compter parce que le nombre de bureaux consulaires est trop faible, mais si on regarde l'Équateur, on voit que là aussi, il y a des choses intéressantes. D'une part, les chiffres que l'on attribue à Kengo Wadondo, à Mobutu Nzanga, et aussi à Étienne Tshisekedi, qui semble recueillir à son profit les voix de Jean-Pierre Bemba en 2006. Donc nous avons là des indications relativement lourdes qui sont intéressantes, mais encore une fois, il ne s'agit au total que de 15%. Nous sommes vraiment très 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 loin du résultat final.
Alors professeur, parce que l'émission est vraiment pédagogique, il faudrait que les auditeurs et les internautes qui nous suivent appréhendent mieux toutes ces questions. Quand vous dites qu'il y a des indications et non des tendances, quelle est la nuance?
La nuance, c'est que les tendances nous orienteraient déjà vers le résultat final. Si sur les 32 millions d'électeurs, nous avions, disons, 28 millions, par exemple, et que nous ayons quelqu'un à 42% et un autre à 30%, vu le chiffre qui reste, on pourrait dire que là, nous avons des tendances qui, sauf accident, sembleraient indiquer que... Là, il s'agit simplement d'une photographie à un moment donné. C'est comme si vous photographiez un bébé à un jour et vous faites la photo 10 jours plus tard, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est intéressant pour nos concitoyens parce que ça leur donne de quoi commencer à discuter et voir que les choses sont quand même aussi très très compliquées.
Donc professeur, nous allons insister pendant toute cette émission qu'il s'agit encore des premiers résultats partiels. Et il faudrait qu'il n'y ait aucune confusion, il faudrait que ça soit bien entendu.
Oui, ça ne représente que 15% de l'électorat, il reste 85%. Et avec les 85% qui restent, tout peut absolument changer, y compris celui qui a zéro voix aujourd'hui. Sur les 15%, il peut faire une percée telle qu'il sorte le premier.
À vous comprendre, professeur, en parlant des thèmes qui s'étaient dit dans les deux Kassai, Kamerhe, le Kivu, et Kamerhe Kabila dans le Kivu, ainsi que de Nzanga Mobutu et Léon Kengo Wadondo à l'Équateur, vous voulez dire que le vote est resté sociologique?
Oui, on s'attendait à ça. On se disait que déjà en 2006, c'était la grande surprise. On avait vu que les citoyens votaient en fonction de composantes régionales et de facteurs sociologiques relativement lourds, et aussi des enjeux régionaux. Et là, on voit que certaines des choses de 2006 se confirment, même si Jean-Pierre Bemba est absent de l'élection, on voit que le report se fait très très clairement de Jean-Pierre Bemba vers Étienne Tshisekedi, peut-être à l'exception de la province de l'Équateur. Donc, au fond, l'équilibre sociologique et les équilibres régionaux semblent rester relativement compact et relativement stable, puisqu'il ne s'agit que de 15%.
Alors, en dehors des équilibres sociologiques, professeur, quelle est l'analyse politique qui peut en découler?
L'analyse politique, c'est que on se disait bien au départ qu'il y avait deux candidats lourds parce qu'ils avaient, je dirais, des légitimités différentes, en termes d'histoire, en termes d'institutions, en termes de charisme aussi. Ils avaient des histoires différentes. On a un jeune et on a un aîné en face de lui, et qu'ils représentaient, je dirais, deux pôles extrêmes de notre vie politique. Entre les deux, nous avions d'autres candidats, ce n'est pas des questions de qualité, mais d'autres candidats qui représentaient autre chose, mais pas aussi tranché qu'entre ces deux-là. Et les premiers chiffres que nous avons montrent qu'en effet, même en restant très prudent à 15%, ça montre que c'est entre ces deux candidats-là, comme tout le monde le disait au départ, c'est ça l'analyse, c'est entre ces deux candidats-là que la compétition semble se jouer.
Professeur Konu, tout d'abord, de votre œil d'expert africain en question électorale, comment vous analysez ces premiers résultats partiels?
Comment j'analyse ces premiers résultats partiels? Tout d'abord, je voudrais souligner une chose, c'est que bon, les chiffres qu'on a, comme dit Lucas, ne sont que partiels, et le taux de compilation dans certaines provinces sont très très faibles pour qu'on en tire une leçon significative. Je prends par exemple le cas du Nord Kivu, où le taux de compilation n'est que de 6%, 6,63%. Et à partir de là, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que bon, les taux qu'on a ne sont pas significatifs pour qu'on on discute autour. Mais néanmoins, il y a quand même certains éléments qui sortent déjà. J'ai lu là le bouquin que Lucia a sorti sur les élections de 2006, où il montrait par une cartographie, c'est pas dans le texte, mais on essaie de visionner comme ça, en termes de cartographie électorale, où on voit tout l'Est votant pour Kabila, et l'Ouest, à l'époque, pour Bemba. Et souvent, bon, en Afrique, on a tendance à dire que bon, le vote est régionaliste, et quelque part, on retrouve ça dans le vote de 2006. Bon, à travers les résultats partiels qu'on a, et comme dit Elika tout à l'heure, c'est que bon, on a l'impression que ces tendances-là vont revenir à travers cette résultats partiels, très très partiels qu'on a déjà. Et quand on voit par exemple dans le Maniema, dans le la province orientale, qui sont tous à l'est, on voit Kabila en tête, alors que on voit dans l'ouest, dans le nord, Kasaï oriental et Kasaï occidental, on voit ce qui se dit en tête avec de gros scores, ne serait-ce qu'à travers ces résultats très très minimes, je dirais même minuscules, puisqu'il nous reste encore le gros paquet, les 80% à venir. Mais déjà, on voit quand même certains éléments se dessiner qui confirment ce qu'on a vu dans les précédentes élections, les élections de 2006.
Et en passant, il faut dire, professeur, qu'on dirait presque que la CENI vous a entendu, parce que c'est depuis le début de cette semaine qu'on a répété qu'il fallait que la CENI commence à publier ce résultat partiel.
Tout à fait, tout à fait. Bon, tout à l'heure, j'ai entendu Maître Ronsard Malonda qui disait que, bon, concernant le taux de participation, il était difficile pour eux de produire. Je ne comprends pourquoi il y a cette difficulté-là à produire le taux de participation. Peut-être venant d'un pays où la technologie est très avancée, je peux dire que d'heure en heure, on donne le taux de participation et on compare par rapport à la même heure des élections précédentes, et on voit si les gens sortent pour voter ou pas voter, etc. Bon, peut-être que bon, on n'est pas armé en RDC pour faire cette prouesse-là. Bon, alors j'oublie la question que vous me posez.
Oui, il fallait saluer le fait que la CENI commence à publier.
Oui, tout à fait, que la CENI commence, parce que bon, ça permet de dédramatiser le résultat final, en fait. Que bon, chacun sache comment il est situé et progressivement comment il naît électoralement. Bon, si du jour au lendemain, bon, vous sortez là déjà adulte ou même déjà mort du sein de votre maman, ben, ça fait un traumatisme énorme. Mais par contre, quand on vous donne, vous grandissez petit à petit, je vois sur, je sais pas, le baromètre, comment je grandis, mes voix augmentent ou diminuent en fonction d'eux, ben, quelque part, c'est plus réconfortant que les résultats qui tombent d'un seul coup et vous écrasent et vous sortez là dans la rue, dites bon, moi je suis pas d'accord, etc. Ou je range mon couteau et puis bon, voilà, j'accepte les élections telles que les résultats tels qu'ils sont donnés, voilà.
Alors, professeur, vous dites qu'en Afrique, le vote est régional. Est-il possible d'aller au-delà?
Le vote est régional, vous savez, bon, quelque part, moi, je ne discute pas là-dessus. Le vote régional, on trouve ça partout. Même en France, le vote est régional, et même plus que ça. Et on vote, il y a le vote pour l'entente du terroir. Et l'expression n'est pas africaine, hein. Elle est aussi française. On vote pour la personne qu'on connaît. Et ça va de soi. Et plus vous vous éloignez de votre village, etc., bon, celui qui est candidat de cette région-là, bon, on vote pour lui. Donc, ça n'a rien d'anormal. Mais par contre, on insiste trop là-dessus et on oublie tous les autres facteurs qui configurent le vote, à savoir le facteur foncier, le facteur, professionnel, parce que j'ai une identité, peut-être que le candidat porte aussi, et je vais voter pour lui parce que c'est un grand footballeur, j'en sais rien. Il y a d'autres facteurs qui jouent, et ça, on oublie, on ne voit que le facteur régionaliste.
Maître Ronsard Malonda, à ce niveau déjà, un candidat qui ne serait pas d'accord avec certains résultats qu'il verrait, peut-il déjà saisir la justice?
Non. Le délai de recours court à partir du moment où la CNUS a rendu public les résultats au niveau final. Donc les résultats de l'ensemble du pays. C'est à partir de ce moment-là que le délai de recours, de 3 jours, j'insiste bien, commence à courir. Parce qu'à ce moment-là, la cour compétente pour le cas d'espèce, comme notre cour constitutionnelle n'est pas encore installée, la Cour suprême de justice, se sentira normalement et régulièrement saisie. Il faut que la Commission électorale nationale indépendante transmette à la Cour les procès-verbaux de publication des résultats provisoires. Quand la Cour reçoit, c'est par rapport à ces procès-verbaux reçus par la Cour, transmis par la CENI, que la Cour peut commencer à enregistrer le recours en contestation. Donc, ce n'est pas encore le moment de pouvoir saisir la Cour suprême de justice. Évidemment, ceux qui peuvent le faire, ils sont libres, mais a priori, la Cour ne sera pas saisie.
Alors, à quand la prochaine publication, ou peut-être déjà au moment où nous parlons, ce premier résultat partiel continue?
Aucune planification, la publication ou la prochaine se fera en fonction du nombre de bureaux de vote compilés. Ça a pris plus de 3 jours pour qu'on rende public ces premiers résultats, parce que les difficultés d'arrivée des procès-verbaux, des bureaux de vote vers le centre de compilation sont beaucoup plus réelles au début. Mais au fur et à mesure que les jours passent, les procès-verbaux, les plis des résultats arrivent en grand nombre. Maintenant, le niveau, l'allure de compilation, le rythme de compilation est plus accéléré qu'il y a 2 jours, qu'il y a un jour. Donc, vous ne serez pas surpris peut-être d'apprendre que ce soir, demain ou après-demain, que la CENI a rendu public un nombre plus important de bureaux de vote compilés. Ça va au fur et à mesure que ça.
Donc, à ce rythme-là, d'ici le 6 décembre, on aura déjà les résultats provisoires.
C'est le grand défi et on y travaille. Le système est tel que, au 6, la CENI sera prête pour rendre public ces résultats provisoires. Pour rappel, puisque en 2006, vous avez entendu parler de CLCR, le centre de compilation, on en avait 64 en 2006. Et avec 64, il nous a fallu une moyenne de 2 semaines. Mais cette fois-ci, on en a 169, c'est-à-dire chaque territoire, chaque ville a en son sein un centre tout entier qui compile les résultats de la ville ou du territoire. Donc le travail est beaucoup plus rapide. Il est beaucoup plus rapide. Évidemment, en termes aussi de dispositifs informatiques, il est plus amélioré.
Voilà, nous allons prendre cette illustration, ce reportage qui a été réalisé hier, où la compilation des résultats électoraux était encore loin d'atteindre sa vitesse de croisière. 400 locaux de compilation de résultats CLCR fonctionnent dans un cafouillage indescriptible à Kinshasa, installé à la foire internationale de Kinshasa. Ce centre reçoit à compte-goutte des plis des procès-verbaux et des bulletins de vote provenant de chaque circonscription électorale, mais le travail des agents de la Commission électorale nationale indépendante procède par plusieurs étapes avant de compiler les résultats bruts. Justin Goy nous décrit le travail de compilation à la Sikine.
Les enveloppes non fermées contenaient des procès-verbaux et bulletins de vote abandonnés pêle-mêle dehors. Exposées à la pluie, elles attendent d'être classées et ordonnées par quelques responsables de centres de vote sous un soleil de plomb. C'est dans des embouteillages que nous visitons 4 entrepôts de la foire. Des piles de PV se trouvent entassées les uns les autres. Tout le monde transpire, il fait très chaud. La CENI a installé 6 postes de service dans chaque entrepôt. Ici, l'on procède par la réception et la centralisation des plis, leur transmission. Il s'ensuit leur collationnement consistant à les numéroter et les classer. Puis vient l'étape du dépouillement. Un secrétariat est chargé de la ventilation et du pointage des données. Au niveau de la compilation proprement dite, un administrateur supervise les opérations de saisie. À l'étape d'appurement, une équipe est chargée de vérifier les données avant leur archivage. Il s'agit là de reconstituer les plis. Jusqu'à ce stade, la compilation ne concerne que les résultats de l'élection présidentielle. Celle des législatives est encore mise de côté.
Merci, maître Ronsard Malonda. Visiblement, les conditions de travail dans les centres locaux de compilation des résultats ne sont pas très bonnes.
Personnellement, ça a étonné toute personne, vous et moi, qui travaillons au bureau. Mais sur le terrain, il y a des réalités. Et c'est, je suis content que les journalistes constatent tout cela pour qu'ils comprennent quel effort et quel degré de sacrifice les agents qui travaillent pour ces élections acceptent. Dans le chef de centre de vote, qui emmène avec eux les résultats de autant de bureaux de vote qu'ils ont supervisés, et ces bureaux de vote peuvent aller de 1 à 6 pour un centre de vote, quand ils se présentent, évidemment, on ne peut pas les recevoir tous du coup. Ils arrivent et ils sont reçus par ordre d'arrivée. Mais en attendant, quand ils sont reçus par ordre d'arrivée, les autres attendent. C'est ce qu'ils appellent embouteillage. Mais en réalité, si vous vous souvenez de 2006, ce n'était pas de l'embouteillage, c'était même un peu du cartouillage. Parce que le ramassage, quand il se faisait, on ramassait les plis en 2006, on les entassait quelque part, les chefs de centre venaient en fait chacun récupérer son plus pour se rendre compte au CELSER. Mais cette fois-ci, les chefs de centre viennent avec leurs plis et ils attendent chacun son tour pour rendre compte. Mais le CELSER, qui est une structure aussi, ne peut pas pêle-mêle recevoir le pli. Il y a une organisation, je suis content que cette organisation ait été bien décrite. Mais la centralisation qu'il reçoit, cette centralisation ne suffit pas de venir, monsieur, je vous dépose, vous prenez comme vous voulez. Non, on contrôle, parce que l'agent qui vient du terrain, c'est la personne ressource qui doit renseigner les circonstances dans lesquelles ces plis ont été constitués, les circonstances d'acheminement de ce pays, et donc ça ne peut que prendre un peu de temps.
Mais, Maître Malonda, quand il y a des enveloppes non fermées, contenant des procès-verbaux et des bulletins de vote abandonnés à pêle-mêle dehors, tout ça, est-ce que ça ne dérange pas un peu?
Évidemment, tel que formé, et tel que la procédure le prévoit, les plis des résultats sont constitués au bureau des votes. Et ces plis sont hermétiquement fermés, scellés dans chaque bureau de vote. Mais la réalité est celle que vous venez de voir. Un chef de centre de vote qui a reçu des plis de ces bureaux de vote, il les amène dans cet état-là. C'est ça le rôle du centre de compilation des résultats, c'est de voir si ces plis qui arrivent dans tel état, pourquoi ils arrivent dans cet état-là. Est-ce que l'intégrité des résultats contenus dans ce plis a été préservée? Est-ce que l'authenticité des documents qui sont dans ce plis a été préservée? C'est ça le rôle de celle-ci. C'est pour ça qu'on pense que ça prend du temps, mais c'est un travail minutieux qui est fait pour qu'on s'assure que ce qu'on reçoit, ce qu'on compile, est bel et bien la vérité des urnes, telle que ça a été exprimé dans cette bureau de vote.
Au professeur Eric Mbokolo, d'autres analyses sur les premiers résultats partiels?
Oui, nous avons dit tout à l'heure que le vote apparaît comme étant régional, mais dans le meilleur sens du mot, c'est-à-dire on vote pour celui que l'on connaît,
et pas tribal,
il n'est pas du tout tribal, il est régional. Alors il y a un exemple très intéressant qui montre aussi que les circonstances, la conjoncture politique joue. Le Bandundu, on se souvient qu'en 2006, le Bandundu, au premier tour, avait plébiscité le vieux, le Mouta. Antoine Gizenga, c'est tout à fait inévitable. Et cette fois-ci, dans la mesure où Antoine Gizenga ne se présente pas, et on sait qu'au deuxième tour, le Bandundu, finalement, avait pas mal voté pour Jean-Pierre Bemba. Or, là, maintenant, on se rend compte que le vieux Gizenga n'est plus candidat, et du coup les voix se distribuent d'une manière beaucoup plus équilibrée, sur toujours 17,5%, hein, donc c'est encore peu de choses, puisqu'on voit que Kabila Kabange et Tshisekedi wa Mulumba émergent déjà un tout petit peu dans la masse des candidats, avec 200 000 voix pour l'un, 100 000 pour l'autre. Et alors, derrière eux, nous avons Vital Kamerhe, Kengo Wadong, c'est-à-dire aucun enfant de la région, et ce sont des candidats extérieurs qui, en raison de leur programme, de leur personnalité et des alliances politiques qu'ils ont conclues, commencent finalement à jouer leur rôle. Donc, il n'y a pas de déterminisme rigide, hein, c'est très clair. Il y a des circonstances qui jouent aussi et qui contribuent à montrer que nous avons un véritable peuple citoyen qui vote très certainement en conscience et en toute lucidité.
Professeur, pendant la campagne électorale, beaucoup d'observateurs ont critiqué le fait qu'il n'y avait pas de vrai débat dans cette campagne. Est-ce que cet aspect a compté, puisque vous avez fait allusion au programme?
Oui, je pense que l'absence de débat, à la fois entre la majorité et l'opposition, mais aussi, et nous l'avons vu dans l'un des premiers débats que nous avons organisés au CAPI avec vous en début de semaine, l'absence de débat à l'intérieur de l'opposition, il y avait plusieurs candidats qui auraient voulu débattre, et bien on voit que finalement, en l'absence de ces débats, les gens ont dû voter à partir de chacun des programmes des candidats, même si la déterminante régionale est toujours là. Je pense que dans un coin comme le Bandundu, mais probablement aussi dans l'Équateur, c'est ce que les uns et les autres proposaient et les alliances qu'ils avaient qui ont dû pousser les candidats vers des scores aussi tranchés que ceux que nous avons. 200 000 pour Kabila Kabange, 100 000 pour Tshisekedi, et derrière eux, dans le Bandundu, 5 000 pour Kamerhe et un peu moins de 5 000 pour Kengo Wadongo, pour le moment sur 17% et demi.
Alors, il faut encore rappeler que ce sont les premiers résultats partiels publiés par la CENI. Professeur, sur le plan purement politique, est-ce que plusieurs analystes pensaient qu'en présentant plusieurs candidats, l'opposition dispersait, réduisait ses chances? À ce niveau, qu'est-ce qu'on peut en dire?
Oui, on voit bien qu'il y avait risque de dispersion, mais sauf justement là où le vote régional compte vraiment, pour le moment c'est dans les deux Kivu, où Vital Kamerhe sort très, pour le moment avec le peu de voix que nous avons, mais il sort très bien. Pour le moment, on se rend compte que nuance péjorative, que les candidats moins connus de l'opposition ont quand même du mal à tenir la distance par rapport à Étienne Tshisekedi. Dans son cas, je pense qu'il y a à la fois le vote régional qui joue, et il y a aussi toute l'histoire qu'il a derrière lui, toute la personnalité qu'il représente, qui fait de lui donc une personnalité politique tout à fait nationale, et qui est capable d'avoir un matelas suffisamment épais dans toutes les régions du pays.
Professeur Komik, tout d'abord, le professeur Evika a fait allusion, sans péjoration, je le répète également, aux candidats à moins connus, mais qui semble avoir quand même fait des résultats, même si dans la campagne, ils n'ont pas été très actifs ou très visibles.
Oui, pas actifs, pas très visibles, sinon invisibles pour certains. Mais ceci se comprend, parce que bon, pour faire campagne, il faut avoir les moyens, et le nerf de la guerre, on le sait tous, c'est l'argent. Est-ce qu'ils ont les moyens financiers de mener campagne? Et bon, parfois on a l'impression, surtout pour ce qui concerne les législatives, que certains candidats sont plutôt des candidats alimentaires qui cherchent plutôt un emploi, et une fois casés, ben, ils oublient les électeurs, ils ne connaissent même pas leur circonscription. Bon, tout ça, bon, je pense que ça fait partie de l'apprentissage démocratique, et l'apprentissage de la démocratie. Bon, Au-delà, ben, il me semble que très souvent, quand on a affaire à une élection, une présidentielle à un tour, on aimerait voir, dans le cas de l'opposition, voir émerger un ou deux candidats maximum pour affronter le candidat sortant. Bon, peut-être que c'est une stratégie, mais ceci n'a pas d'incidence sur la manière dont les élections sont organisées. On peut être 36 000, c'est pas ça le problème en ce qui concerne la qualité même de l'organisation des élections. Je pense que c'est deux problèmes à séparer et donc que les candidats soient 11, 10 pour affronter le candidat sortant pour une élection à un tour n'est pas véritablement un problème important.
Mais professeur, ces candidats, entre guillemets, je rappelle, moins connus, ont quand même fait des scores, même dans les provinces où ils n'ont pas été.
Oui, tout à fait, et cela pose la question de savoir si au sein de l'opposition, on avait dégagé un candidat unique, ces voix qui se dispersent, comme on le voit à travers ces résultats partiels, n'iraient pas au candidat qui serait choisi, par exemple, peut-être Étienne Tshisekedi Oui, on peut faire ce calcul-là, mais en même temps, pour ces candidats qu'on dit invisibles, moins connus, je pense que c'est une semence politique qu'ils sont en train de faire pour l'avenir. Pour 2016, on peut voir Caméré, par exemple, engranger ce qu'il vient de semer. Et je pense que c'est important. Vous savez, je pense que la démocratie, il faut se jeter et apprendre. Et je pense que ces jeunes-là, pour la plupart d'un certain âge, etc., le fait de se jeter leur permet d'acquérir les éléments d'apprentissage pour une campagne électorale future.
Professeur Elika.
Oui, je voudrais ajouter aussi que les élections ne sont pas finies, parce que nous avons les élections provinciales, nous avons l'élection des gouverneurs, nous avons l'élection des sénateurs. Alors, toutes ces personnes qui, pour le moment, n'ont pas émergé comme encore de possibles présidents de la République, dans les élections dont nous parlons, donc les élections provinciales, etc., peuvent avoir des scores tout à fait significatifs et peser, peut-être former un groupe parlementaire à l'échelle du Sénat, peut-être à l'échelle de la Chambre des députés, et peser sur la vie politique. Notre système politique n'est pas un système présidentiel, et donc tous les groupes politiques, là où il y a du pouvoir, peuvent avoir un rôle important à jouer. Et je pense que c'est peut-être ça qui explique la raison pour laquelle, dans l'opposition, on n'a pas pu se regrouper derrière un seul candidat, parce que chacun veut préserver sa mise dans les autres institutions à venir.
Professeur, je prendrai par exemple le cas du candidat Oscar Kachala. En 2006, c'était présenté comme également un outsider, mais pour l'instant, c'est en 2011, il n'a pas battu campagne, on ne l'a pas vu sur terrain, mais il engrange quand même des voix par-ci par-là. Comment analyser cet aspect, par exemple?
Oui, je crois que le docteur Kachala avait fait le pari aussi tout à fait remarquable en 2006 de débarquer et de dire « voici ce que je suis, voici ce que je peux faire ». Et finalement, même s'il a disparu de la scène politique, son nom est resté dans les mémoires de gens. Il réapparaît aujourd'hui, évidemment avec un déficit, parce qu'au Kassai, où il avait eu beaucoup de voix, c'est le candidat Étienne Tshisekedi qui sort, mais on voit qu'un peu partout dans le pays, avec le faible taux que nous avons, il recueille un nombre significatif de voix. Et je pense, puisque si nous pouvons commencer à imaginer l'avenir, que son intérêt est peut-être de continuer à cultiver son terrain au Congo même, et d'éviter de faire ce qu'il avait fait en 2006, c'est-à-dire de partir aussitôt la campagne électorale terminée.
Professeur Komi, tout d'abord, Étienne Tshisekedi, absent en 2006, en 2011, on a l'impression que sa présence a contribué à une certaine redistribution des cartes sur l'échiquier politique.
Oui, et on peut regretter qu'il ne soit pas présent en 2006. Peut-être aurait-il remporté ces élections-là. Bon, c'est une hypothèse. Bon, là, on voit que, il fait des scores, même parfois talent, même le président sortant dans son bastion, et dans je retrouve dans le Kivu, et c'est ça le Kivu, c'est ça. Il fait des scores, me semble-t-il, pour quelqu'un qui en 2006 n'était pas présent, et vous savez, une élection, surtout présidentielle, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, surtout qu'on le veuille ou non, il y a la personnalité de l'individu, du candidat qui compte énormément. Comme disait tout à l'heure Elikia, c'est un leader politique national, il a une dimension nationale, il est très très connu et il a une histoire, notamment son opposition au maréchal Mobutu dans le temps, et ça bon, c'est resté incrusté dans la mémoire collective, et ça bon, c'est une ressource très très importante, et parfois certains candidats comme ça n'ont même pas besoin de faire campagne, énormément campagne, lourdement campagne, et ils engrangent ne serait-ce que sur leur nom, sur leur charisme, parce que bon, le nom, le charisme aussi importe énormément, surtout dans un régime, dans une élection présidentielle, pardon.
Alors, pour tous nos auditeurs et nos internautes, notez que nous terminerons cette émission à 20h15, donc ne zappez pas encore, vous avez encore 15 minutes pour suivre cette émission. Professeur Comique, tout d'abord, très brièvement un commentaire sur le reportage que nous avons suivi tout à l'heure sur l'ambiance qui règne au centre de compilation. Maître Malonda a insisté sur le fait que c'est un exemple pour que l'on voit effectivement tous les efforts que la CENI est en train de mettre en place pour que ça marche.
Oui, c'est vrai que bon, quand on écoute, moi je l'avais déjà écouté ce reportage, je crois ce matin.
Hier soir,
c'est ça, exactement. Et je me suis posé cette question. Bon, enfin, bref, il me semble que c'est intéressant qu'on mette des réalités comme ça à la figure des autorités, qu'ils comprennent quand ils tardent, ils se donnent le temps ou même restent dans une sorte d'insouciance électorale, ne prennent pas de décision, restent dans une sorte d'impuissance pour prendre des décisions. Pour ce qui concerne des décisions importantes qui touchent la vie de la cité, notamment l'organisation des élections présidentielles et législatives, on assiste à ce phénomène-là. Je ne suis pas certain si en 2006 on n'a pas eu de phénomène de ce genre déjà. Et en 2016, peut-être on en aura encore. Mais ça, bon, ça ne fait que refléter ce que la RDC et d'autres pays sont. Parce que dans mon pays d'origine, je ne suis pas certain que les choses sont tellement différentes.
Hein. Professeur Elika, un mot aussi sur ce reportage.
Oui, c'est vrai que ça donne l'image du travail que les gens font. Mais quand même, il faut penser que c'est l'élection décisive pour le chef de l'État. Donc, cette pagaille, ce désordre que le reporter a présenté, les conditions difficiles dans lesquelles ces gens travaillent, il faut vraiment faire en sorte que les prochaines fois, ça soit mieux. Nous avons parlé de l'État qui doit exister. La Fikine est un lieu qui n'est pas du tout approprié pour faire le type de travail que ces gens sont en train de faire. Donc, il faut d'autres locaux, d'autres affectations, et peut-être, nous l'avons proposé aussi,
d'autres moyens
et des structures un peu permanentes pour la CENI, avec des conditions de chaleur, de froid, qui soient acceptables pour ces gens, parce que c'est l'avenir de la nation qui est en train de se décider là, et non pas seulement le sort des candidats à la présidentielle.
Notez en même temps qu'en Ituri, la Commission électorale nationale indépendante organise encore des élections jusqu'à ce jour dans le territoire de Djougou, particulièrement dans les villages situés au bord du lac Albert. Sur place, certains candidats déplorent l'organisation des élections à la va-vite et la délocalisation des lieux de dépouillement. Jean-Paul Bassila pour les détails.
Hier jeudi, cet adieu éperdié, c'est une pirogue motorisée partie des Tchouniens, transportant du matériel de vote, avait accosté d'abord à Djo, puis à Torgué, après 15 heures locales. À son bord, il y avait des agents de la CENI, dont un superviseur, dont la mission a été d'organiser des élections et de tout ramener à Tchouniens où le dépouillement est prévu. Un agent électoral est resté à Tchouniens, confirme.
Le dépouillement aura lieu ici à Tchouniens, comme qu'on a noté à Niamamba. À Niamamba, on avait voté, mais ils sont rentrés, nous, on a fait le dépouillement ici à Tchouniens.
Djo, Torgué, ce n'était pas le seul lieu visé pour y organiser des élections dès le 28 novembre. À Café, un autre village situé au bord du lac Albert, des sources locales indiquent que la même équipe y a organisé des élections toujours hier jeudi de 20h à 23h. Jusque ce vendredi matin, la caravane électorale des agents de la CENI au bord du lac Albert n'avait pas encore pris fin. Mais déjà, Mathieu Pitt a rapporté la CENI juin il y a peu, indique que la seule journée d'hier s'était prévue qu'il y ait élection, mais pas ce vendredi.
J'étais hier au Oui, juste hier. On a sauté le pouvoir. Aujourd'hui, non.
À Gobou et Alikopi, toujours au bord du lac Albert, plus de 10 000 électeurs continuent à attendre impatiemment la caravane électorale de la CENI. Ouignan, Jean-Paul Bassila, Radio Capi.
Merci Jean-Paul Bassila. Maître Ronsard Malonda, je rappelle que vous êtes directeur chargé de la coordination et de suivi des opérations à la CENI. 4 jours après le scrutin, 4 jours avant la publication, on continue à voter dans certains endroits. Comment vous expliquez ça?
Évidemment, quand les journalistes parlent de caravane électorale, ça me fait un peu penser à l'opération de révision du fichier électoral. Dans la tête de beaucoup de nos concitoyens congolais, ils estiment ou ils pensent que l'opération de vote et de dépouillement peut être comparée aux autres opérations préélectorales. Et on a vu la révision du fichier électoral s'étendre sur autant de jours et aller d'un endroit à un autre. Pour cette fois-ci, il était clairement dit, et puisqu'il s'agit de questions sensibles, il était clairement dit, le bureau de la CENI était clair, que seuls les endroits qui étaient désignés devaient être concernés par l'organisation prolongée de l'élection. Quand je parle de l'organisation prolongée, il y a des bureaux de vote qui, au jour du scrutin, à l'heure de la clôture, à 17 heures, avaient encore assez de gens et les bureaux avaient autorisé que ce bureau de vote fonctionne jusqu'à épuisement des gens présents. Et pour certains bureaux de vote qui ont connu un retard dans l'ouverture, pas par la faute des bureaux de vote et pas par la faute de la population locale, mais parce que le matériel serait arrivé en retard, ces bureaux de vote ont continué à fonctionner les jours suivants, parce qu'il ne fallait pas pénaliser la population locale. Mais il y a des endroits qui étaient bel et bien précisés par les bureaux de la CENI. Les cas de Lomela, les cas de Tembo Pangi dans le territoire de Kasongo-Lunda, les cas de Bungandanga, le cas de Kinshasa pour Matina Sifoko, le complexe scolaire Saint-Boniface. Ce cas-là avait été autorisé de pouvoir fonctionner à la date d'hier. Mais tout autre cas ayant fonctionné au-delà de l'autorisation donnée par les bureaux de la CENI, évidemment, quand ça va arriver au centre local de compilation de résultats, ce sont des cas qui seront portés au bureau de la CENI pour décision. Parce qu'il faut à la fois préserver la régularité du scrutin.
Il y a eu, pourrait-on dire qu'il y a eu un problème de communication au sein même de la CENI?
Problème de communication, pas au sein de la CENI. Problème de communication à l'échelle nationale. Il faut avouer que,
c'est-à-dire,
le scrutin se réalisent aux différents groupements, et ces groupements, pour la plupart, sont enclavés et difficilement joignables. Quel que soit l'effort fourni pour doter des différentes inscriptions de GSM, de Touraya, il arrive des moments où ces moyens de communication déployés ne sont pas toujours opérationnels, ne sont pas toujours au rendez-vous. Et donc, il arrive des moments où nous qui sommes chargés de la coordination, nous qui sommes chargés du suivi des opérations, qu'un point quelconque nous puisse nous poser des problèmes de communication. Mais tous les territoires de Lomela, pour qu'ils soient informés qu'ils avaient été autorisés d'organiser le scrutin un jour, 2 jours plus tard après le scrutin, la date prévue, c'était tout un problème. Le seul moyen de communication qu'ils ont, c'est la radio Capi. Et ils nous ont envoyé des messages pour dire, si vous voulez nous joindre, passez par la radio Capi, parce que la population suit la radio Capi. Au-delà de la radio Capi, même les phonies locales étaient fermées. C'est moi qui ai utilisé ça. Donc c'est un problème réel de communication. Là, il faut que l'État investisse suffisamment encore pour qu'on sache atteindre les plus.
Alors il y a beaucoup de gens, Maître Ronsard Malonda, qui n'ont pas voté. Qu'est-ce qu'ils vont devenir?
Le vote a eu lieu. Ceux qui ont eu la possibilité de voter, ils ont voté. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voter parce qu'empêchés par tel ou tel événement,
là où les bureaux, par exemple, n'ont pas fonctionné.
Il y a des endroits où les bureaux n'ont pas fonctionné. Si c'est par la faute de l'organisation de la CENI, ce sont ces bureaux qui ont été autorisés soit de pouvoir continuer ou de pouvoir organiser plus tard le scrutin. Mais là où ça a été fait par la faute de l'organisation ou de l'environnement local. Évidemment, la CENI a fait ce qu'elle pouvait faire.
La CENI est désolée.
Vraiment désolée, parce qu'on peut fournir encore l'effort d'y aller, mais rien ne prouve que cet environnement local sera plus propice à l'organisation du scrutin.
Professeur Evica, je vais encore prendre d'autres illustrations. À Moustingwa, village situé à 60 km de Wamaza, territoire de Kabambaré, dans la province du Maniema, les élections n'ont pas eu lieu pour les 11 bureaux de vote de ce centre. Selon le chef d'antenne de la CEDEA à Wamaza, il s'agirait d'une erreur logistique et d'une incompréhension entre les partis politiques, les autorités politico-administratives et la CENI. Le territoire de Bomongo dans la province de l'Équateur, la moitié du territoire, soit plus de 10 000 personnes, n'ont pas voté. Dans la province orientale, les villages entre Kisangani et Yakoussou dans le territoire du Sangui ont à peine voté. Pour exemple, sur 5 000 habitants de Yakoussou, 911 seulement ont voté. Dans le groupement Ilombo dans le territoire du Sangui, dans la chefferie de Bolomboke, 4 villages n'ont pas voté, faute de bureaux. Le chef de groupement a interdit aux habitants d'aller voter dans le village voisin où sont installés les bureaux à cause des conflits fonciers. Professeur, comment vous analysez ?
Oui, 5 000 ici, 2 000 là-bas, 1 000 ici, par là. Ça finit par faire une ville de province, hein, donc ça fait quand même beaucoup. Et moi, je comprends ce que dit Maître Malonda, la CENI ne peut faire que ce qu'elle peut faire.
À l'impossible,
d'autant plus que cet impossible relève de l'autorité de l'État. Les problèmes de désenclavement, le problème des communications, etc., la CENI ne peut pas les résoudre. Il y a des opérateurs que l'on peut consulter dès à présent par rapport aux élections qui auront lieu jusqu'en 2012 et par rapport à celles de 2016. Il y a l'Office des routes, enfin il y a toute une série de choses. Et je dirais aussi, il y a la connaissance du pays. Le dernier exemple que vous donnez, où donc on installe le bureau de vote dans un village sans savoir que entre ce village et le village voisin, il y a des conflits fonciers, donc ça montre que les opérateurs politiques n'ont pas une connaissance suffisante du pays ou ne tiennent pas compte de ce que les gens pensent. Donc, d'autres pays nous ont donné l'exemple que l'élection doit être organisée dans des lieux où tout citoyen, toute citoyenne a la capacité, avec des moyens normaux, d'aller dans la journée et de revenir dans la journée. Ça, c'est la référence démocratique. Il n'y a pas que Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani, où nous avons des moyens de transport. Il y a aussi tous ces villages où vivent encore plus de la moitié de notre population.
Professeur Komi, quelle est votre analyse à ce niveau? On vote encore par-ci, on dépouillera par-là et...
Oui, bon.
Le professeur Edithia a dit qu'il y a des choses qui relèvent de l'autorité même de l'État.
Oui, ouais, ça, on l'a souligné, ressouligné, et je pense qu'il faudra encore insister là-dessus. Parce que, bon, on a l'impression qu'une fois la CENI mise en place, l'autorité, je dirais, de tutelle s'est complètement désengagée, quelque part à sous-traiter les élections à la CENI, et sans moyens, ou très peu de moyens, et dit, ben, écoutez, vous vous débrouillez. Faites en sorte que nous soyons réélus éventuellement et si possible mettez en place une équipe d'organisation électorale ambulante au cas où dans certaines localités on n'aurait pas voté à la même date que les autres et c'est ce que la CENI est en train de faire. On va dépêcher là une équipe pour aller organiser des élections à la date je sais pas. Non, franchement, moi je reste un peu perplexe. Parce que bon, quand on ajoute cette différente diverses frustrations, faillites, etc., bon, on peut jeter la pierre à la CENI, mais en fait, c'est aux autorités politiques, gouvernementales, c'est à ces autorités-là qu'il faut jeter vraiment la pierre.
Alors, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Professeur, déjà, votre conclusion par rapport au premier résultat partiel publié par la CENI, c'est la grosse information aujourd'hui. Professeur, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est ce qu'on disait au départ, c'est que bon, les tendances lourdes des élections de 2006 semblent réapparaître, à savoir cette dichotomie entre l'Ouest et l'Est, l'Est pour Kabila et l'Ouest pour Tshisekedi. Bon, maintenant, reste à savoir si la totalité, l'intégralité des résultats vont confirmer ces résultats partiels.
Merci, professeur Komi Tshilabor. Maître Oronsar Malonda, par rapport au bureau de vote où on n'avait pas voté à Bongandanga, Lomera, qu'est-ce qui a été fait pour ces auditeurs qui sont en train de vous suivre maintenant?
Le vote est terminé, le vote a eu lieu, et il n'a pas eu lieu à la date du 28, mais il a eu lieu à la date qui a été autorisée par le bureau de la CENI. À Bongandanga, il y a des bureaux de vote qui ont clôturé le 29, et à Lomela, les votes ont pris fin hier. Donc, actuellement, officiellement, aucun bureau de vote n'est ouvert et aucun bureau de vote n'est en train de dépouiller.
Donc, la CENI a clôturé officiellement toutes les opérations de vote.
Vous remarquez vous-même d'ailleurs que la compilation est en train d'avancer. Cette compilation qui se fait après la clôture du vote.
Professeur Elika, en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Oui, moi je voudrais lancer un appel à nos concitoyens et dire que nous avons demandé que la CENI sorte de son silence et commence à donner les résultats. Les résultats sont en train de tomber. On craignait qu'il y ait des débordements de toutes sortes. Je pense que ces résultats donnés au fur et à mesure vont déstresser les gens, enlever le stress et nous permettre d'accepter les résultats tels qu'ils apparaîtront finalement le 6 décembre.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission Dialogue entre Congolais. C'est terminé pour ce soir. Merci à Guy Maté, Kevin Koute, Samuel Kachak, Félix Kitelamondo, Martin Sebouzangwe, Dieudonné Nyangasa et Patrick Yassongwa qui m'ont aidé à préparer cette émission. Présentation et coordination, Alain Roumouchi. Au revoir. Thank you.